pour répondre à une remarque qui m'a été faite à l'instant, dans les événements de 1860 en Syrie, les Juifs n'ont pas été concernés. Les violences n'ont visé que les populations chrétiennes. Les Juifs qui apparaissaient comme des populations pauvres et qui restaient dans l'ordre traditionnel musulman n'ont pas du tout été visés par les émeutes de 1860. C'est spécifiquement une position de musulmans et de chrétiens. Une anecdote, mais qui a un certain sens aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, j'avais été amené à faire une conférence sur ce sujet, donc Napoléon III le levant, et j'avais la chance exceptionnelle d'avoir comme modérateur M. Couve de Murville. Et donc l'ancien Premier ministre m'a dit avec son humour pince sans rire, « Ah, vous savez, M. Laurence, Napoléon III, il avait bien plus de moyens militaires que nous. » Je pense que M. Hollande en pourrait dire encore plus aujourd'hui, puisqu'on pouvait envoyer en 3 semaines ou 1 mois un corps expéditionnaire de plusieurs dizaines de milliers d'hommes au Liban en 1860. Les capacités de projection militaire de l'époque sont bien supérieures à nos capacités de projection militaire d'aujourd'hui. Donc ceci, c'était pour faire 2 points de remarque et permettre aux dernières personnes de revenir à leur place. J'entame là un long développement qui va prendre ce cours et probablement le cours suivant. On va quitter en partie le Proche-Orient. Puisque nous allons aborder une question qui est très importante et qui est en même temps très patrimoniale ici, parce que je vais citer un certain nombre des grands anciens, c'est celle de l'orientalisme du XIXe siècle. Les discours occidentaux concernant le monde de l'islam au XIXe siècle sont à la fois des documents sur le XIXe siècle, enfin sur la pensée européenne, du XIXe siècle, mais sont aussi des instruments des transformations du XIXe siècle. Ces discours agissent sur les acteurs, qu'ils soient européens ou ottomans. Donc il ne s'agit pas simplement de se faire plaisir en mentionnant un certain nombre de grands anciens, mais de se rappeler que les discours influent sur le réel. L'existence d'un savoir académique constitué sur les mondes dits orientaux date du XVIIe siècle. Jadis, Claude Lévi-Strauss avait appelé ça le second humanisme, dans la mesure où, pour les gens de la seconde moitié du XVIIe siècle, en particulier au Collège Royal, il s'agissait d'agrandir les humanités en élargissant le domaine de l'Antiquité au domaine de l'Orient. Autrement dit, ce qu'on fait, en particulier au Collège Royal entre 1650 et 1700, c'est de passer d'une bipartition, les anciens et les modernes, à une tripartition, les anciens, les orientaux et les modernes. Je rappelle que dans la langue du XVIIe siècle, les modernes, c'est ceux qui suivent la chute de l'Empire romain. Donc les modernes ont plus de 1000 ans d'histoire. Puis finalement, au XVIIIe siècle, on arrivera à un système à 4 termes, puisqu'on aura aussi les sauvages. Puisque vous savez, les voyages de Bougainville, la découverte de Tahiti, etc., la thématique du monde sauvage, donc l'humanité se divise entre les anciens, les modernes, les orientaux et les sauvages. Ça, c'est 1750. La connaissance de l'Orient appartenait essentiellement au domaine des belles-lettres, dont le but était la création d'une littérature universelle, et la plus grande démonstration a été la traduction des Mille et une nuits par Antoine Galland au Collège de France, au début du XVIIIe siècle. Parallèlement à ces érudits de cabinet, il y a eu la dimension plus pratique des droguements, traducteurs, dont la monarchie française a pris en charge la formation depuis Colbert, et le passage progressif d'une littérature de pèlerinage à une littérature de voyage. Dès le XVIIe siècle, on a ainsi des personnages qui se lancent dans l'entreprise de voyager avec pour dernière finalité celle de composer une relation de ce qui a été vu et vécu et de la publier. Ça qui est fondamental. Qu'il y ait des voyageurs, il y en a toujours eu. Mais maintenant, on a des gens qui voyagent pour écrire un livre. Mais pour voyager pour écrire un livre, il faut être dans un monde de l'imprimé où il y a des éditeurs qui publient des livres et des publics pour les lire. C'est pour ça que les relations de voyage faites par les musulmans à la même époque n'ont pas le même sens, parce que si elles sont manuscrites, elles sont lues par 50 personnes, et tandis qu'une relation de voyage faite par un Européen en terre d'islam, c'est lue par des milliers de personnes, éventuellement. Il y a des gens qui font des véritables best-sellers au XVIIe ou au XVIIIe siècle sur leur voyage en Orient. Il se peut que, dans certains cas, les personnalités du savant, du droguement et du voyageur peuvent se confondre ou, en tout cas, correspondent à des étapes différentes dans leur carrière. C'est le cas d'un certain nombre de professeurs au Collège de Royal, donc le Collège de France, au XVIIe et XVIIIe siècle. Ces savants ont fourni des matériaux à une perspective comparatiste dont les philosophes des Lumières vont se faire les acteurs. Le Montesquieu de l'Esprit des lois et le Voltaire de l'Essai sur les mains, donc c'est le milieu du XVIIIe siècle, sont des traités d'histoire universelle comparatistes qui vont jusqu'au Japon. Mais c'est aussi le cas chez Rousseau, qui cite les musulmans. Alors Rousseau est plutôt assez favorable aux musulmans parce qu'ils sont moins civilisés. Comme il trouve que la civilisation corrompt les mœurs et les gens, les musulmans sont moins corrompus que les Européens chez Rousseau, parce qu'ils sont plus près d'un état moral. Voilà. La dernière génération des Lumières, celle dite des idéologues, a procédé à une comparaison systématique des institutions humaines avec l'ambition de pouvoir constituer ce qu'ils appelaient une science de l'homme, dont dérivent nos plus modestes sciences de l'homme au pluriel. Mais c'est bien vers 1790-1800 qu'en France et en Europe a ce projet global de constituer une science de l'homme. L'un de ses plus notables représentants, Volney, a même fait un célèbre voyage en Égypte et en Syrie qui peut être considéré comme la première recherche de terrain en sciences sociales sur ces régions. Cette ambition se retrouve dans l'état moderne de la description de l'Égypte rédigée dans la foulée de l'expédition d'Égypte de 1798-1801. Sous l'Empire, Chateaubriand invente, avec l'itinéraire de Paris à Jérusalem, la formule nouvelle du voyage en Orient, faite par un grand écrivain, créant ainsi un genre littéraire spécifique qui va marquer profondément le XIXe siècle, avec les contributions de Lamartine, Nerval ou Flaubert, et de bien d'autres encore. Comme d'habitude pour la littérature du XIXe siècle, puisque Chateaubriand l'a fait, les autres sont obligés de le faire, d'essayer de rivaliser avec Chateaubriand. Le projet de... Donc, alors, dans tout ça, on se nourrit de visions, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu dire par les gens, et puis on pique en général dans la littérature des prédécesseurs pour faire croire qu'on a vu telle ou telle chose qu'on n'a pas vue. Il y a du couper-coller permanent, y compris chez les plus grands, dans cette littérature de voyage. Nerval a beaucoup piqué un Anglais qui s'appelait Lynn, qui avait fait un livre sur les mœurs et coutumes des Égyptiens. Il l'a traduit en français et il l'a mis dans son voyage en Orient. Ah, bon. Les études sur le monde arabe sont dominées par la personnalité d'Antoine Isaac Sylvestre de Sacy, 1758-1838, dont la longue vie recoupe toutes les transformations de la France de son temps. Ce représentant de la tradition janséniste a déjà été membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres sous Louis XVI. Monarchiste constitutionnel, il a accepté la Révolution, mais rejeté la République et la Terreur. Il s'est prudemment retiré à la campagne durant cette période de troubles, puis a été le premier titulaire de la chaire d'arabe de l'École des langues orientales, créée en 1795, et accède aux honneurs sous l'Empire, professeur de persan au Collège de France en 1806, député de Paris au corps législatif en 1808, baron d'Empire en 1813. Il sera l'un des grands notables de la monarchie constitutionnelle et entretiendra une correspondance savante étendue à toute l'Europe. Son œuvre la plus importante est sa grammaire arabe, parce que le règlement des langues orientales stipulait que les professeurs des langues orientales devaient rédiger la grammaire de la langue qu'ils enseignaient. Ça a été encore valable jusqu'aux années 1980 à peu près. Il a inauguré le jeu, il a fait une grammaire de l'arabe, publié en 1810, qui est la dernière incarnation de la grammaire de Port-Royal, de la grammaire des jansénistes, ce qui veut dire qu'il postule une unité sous-jacente à la pluralité des langues. Je vous dis le passage de sa préface. « J'ai ramené, autant qu'il m'a été possible, le système de la langue arabe en règle générale de la métaphysique du langage, bien convaincu que toutes les langues n'ayant qu'un même but, les divers procédés par lesquels elles parviennent à atteindre ce but, quelques éloignés qu'ils paraissent les uns des autres, peuvent néanmoins être rapprochés bien plus qu'on ne le pense communément. » Et comme vous le savez, cette grammaire janséniste a inspiré, il y a quelques décennies, le renouveau des grammaires dégénérativistes. Et d'ailleurs, Noam Chomsky a écrit un livre sur la grammaire janséniste, en la marquant que c'est la base de la grammaire générative d'aujourd'hui. Donc, Sylvestre de Sacy est le dernier des grammairiens de Port-Royal. Outre sa très imposante œuvre érudite et ses activités d'homme public, Sacy a été l'animateur des études sur les mondes orientaux. Il veut les inscrire, comme les gens de sa génération, dans une étude de l'homme, parce que même s'il est janséniste, il croit lui aussi à une science de l'homme. Je cite ce texte de 1815. « Il faut voir l'homme à tous les degrés de la civilisation, depuis l'état sauvage qui n'est que l'oubli de sa nature sociale, jusqu'à l'excès de la culture qui en est la corruption. Il faut l'envisager à toutes les époques de l'histoire, sous l'influence de tous les climats, sous l'empire de tous les systèmes religieux ou politiques. Il faut le suivre dans le nombre immense de ses combinaisons variées, plus favorables les unes au développement de l'imagination, les autres aux méditations de la sagesse, de ces combinaisons dans lesquelles la raison trouve un soutien contre la violence des passions ou qui fournissent aux passions révoltées une dangereuse énergie pour triompher de la résistance de la raison. Ainsi se rattachent à l'étude de l'homme toutes les connaissances, et surtout les connaissances historiques et géographiques, mais plus les nations qui sont l'objet de nos recherches s'éloignent du cercle étroit dans lequel nous vivons, par les temps ou par les lieux, par les habitudes, les mœurs, les opinions, plus les contraintes qu'elles nous offrent sont frappantes et multipliées, plus aussi en apprenant à les connaître, nous nous approchons du but que nous nous sommes proposés et nous nous sentons entraînés par un intérêt toujours croissant et un attrait irrésistible. Peut-être est-ce ce rapport secret qui, presque à leur insu, pousse les hommes vulgaires eux-mêmes vers les relations des terres lointaines ou des peuplades longtemps inconnues. Cependant, une telle étude ne saurait porter des fruits réels pour celui qui ne s'y est point rendu propre par de longues et pénibles préparations. Deux moyens principaux s'offrent pour l'atteindre ce but, les voyages et l'étude des langues. De ces deux moyens, le premier même est de bien peu d'utilité sur le second. La connaissance des langues, au contraire, peut dispenser de la fatigue des voyages. Elle ménage le temps si court de la vie et les forces physiques si nécessaires à l'exercice des forces morales. Elle a d'ailleurs l'avantage de faire disparaître la distance des temps comme celle des lieux. Ajoutons que ces langues portent en elles-mêmes un des traits les plus caractéristiques des nations, que le degré de civilisation d'un peuple, ses opinions, la tendance de ses facultés morales et intellectuelles sont fortement empreintes de son idiome et ne se dérobent qu'aux yeux de ceux qui le défaut de réflexion a rendu insensible à ses lumineuses indications. Ceci, c'est un rapport de Sylvestre de Sacy au Collège de France en 1815. Si Sacy s'inscrit bien dans la lignée des auteurs de la fin du XVIIIe siècle qui veulent établir une science de l'homme, sa foi catholique l'éloigne des idéologues réputés pour leur athéisme. Contrairement à Volney, son contemporain, il n'est pas question de science sociale, mais avant tout de littérature érudite. La connaissance des sociétés, de leur mode d'organisation, est aussi liée au développement des empires coloniaux. Les Britanniques en Inde, les Français en Algérie et les Néerlandais dans l'actuelle Indonésie avaient besoin d'un savoir pratique pour pouvoir administrer des populations devenues indigènes du fait de la conquête. Dès les premiers temps, toute une couche intermédiaire d'interprètes et d'informateurs s'est constituée au contact des deux mondes. Au-delà, le savoir comprenait l'étude des corpus juridiques de ces sociétés, ce qui aboutissait à leur codification, souvent en s'appuyant sur les traités les plus anciens, donc jugés les plus authentiques. On va donc à la fois vers l'authentique, défini par son ancienneté, et vers une modernisation du droit, puisqu'un certain nombre de pratiques jugées inhumaines deviennent interdites. Par exemple, les Anglais interdisent le suicide des veuves en Inde, tandis que les Français en Algérie interdisent les peines corporelles du droit musulman. Du fait de l'émergence de ce qu'on appellera les empires coloniaux, un orientalisme consacré aux époques contemporaines se constitue. Pour des raisons évidentes, les Français développent la connaissance de la langue arabe, les Britanniques du persan, parce que le persan est encore langue de culture en Inde du Nord, et des langues indiennes. À côté de cet orientalisme à vocation administrative, il faut aussi prendre en compte les missions chrétiennes, catholiques et protestantes, qui tout aussi bien pour du prosélytisme que pour fournir des services aux populations, enseignement, services médicaux, ont aussi besoin de la connaissance des langues et du patrimoine des pays considérés. Il se constitue donc ainsi un orientalisme chrétien savant qui, tout en étant hostile à l'islam, en donne une connaissance approfondie. L'exemple parfait sera à la fin du XIXe siècle, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, des jésuites, qui est à la fois très hostile à l'islam, mais qui développe une importante publication en arabe. C'est dans la décennie 1820 que les savants en matière orientale deviennent des orientalistes, c'est le mot apparaît à ce moment-là, et les connaisseurs de la langue arabe des arabisants. L'orientalisme est alors un puissant mouvement intellectuel et artistique dont l'ambition première est de régénérer la culture européenne en élargissant à l'Orient les référents jusque-là inspirés par l'Antiquité classique. Cela va du monde musulman méditerranéen à l'Inde et au-delà à la Chine et au Japon. L'éclectisme du XIXe siècle va ainsi se nourrir d'une multitude d'éléments orientaux, y compris dans le mobilier des intérieurs bourgeois. On voit par étapes successives, vous voyez arriver dans le mobilier européen les poufs, les coussins, les divans, et puis vous verrez dans les années 1870-1880 arriver les estampes japonaises, etc. L'intérieur européen s'orientalise à faire à mesure que l'on progresse dans le 19e siècle. Pour la première fois, la poésie européenne va se doter de modèles orientaux. Pensez aux orientales de Victor Hugo. En peinture, les orientalistes se permettront d'avoir des couleurs plus vives dans des tableaux qui peuvent être tout aussi bien des scènes d'intérieur que la recréation d'événements contemporains, de la croix en la démonstration éclatante. Ultérieurement, les peintres orientalistes se serviront de l'exotisme géographique pour pouvoir traiter de certains thèmes qu'ils expriment aussi dans une peinture d'histoire de l'Antiquité, les deux se rencontrant dans la peinture de sujets bibliques. Le tout aboutira au XXe siècle dans des registres d'images qui seront repris par le cinéma. Toute la thématique du cinéma en matière orientale dérive de la peinture orientaliste. C'est la même chose pour l'antique. Le péplum est un produit de la peinture d'histoire du XIXe siècle. Cette affirmation de l'Orient, cette renaissance orientale, selon une expression devenue consacrée, est indissociable de l'invention du Moyen-Âge. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, au XVIIIe siècle, on ne connaît que l'opposition des anciens et des modernes. C'était la séparation étant la chute de l'Empire romain. Ce n'est qu'avec le romantisme qu'apparaît le Moyen-Âge. Certes, la tripartition Antiquité, Moyen-Âge et époque moderne existait déjà chez certains auteurs, mais on était resté jusque-là ancien et moderne. Les premiers siècles de l'époque moderne étaient plutôt victimes d'une vision dépréciative. L'affirmation d'une spécificité médiévale avec la réhabilitation des arts de cette période est ainsi concomitante de l'orientalisme triomphant. L'attirance pour le Moyen-Âge comme pour l'Orient est une forme de protestation contre la modernité en cours, accusée de tout uniformiser et de tout rendre vulgaire. Cet aristocratisme est une protestation contre la démocratie, coupable de vouloir tout égaliser. C'est le sens de l'œuvre d'un Gobineau qui se croyait un savant et qui était un grand écrivain. L'Orient est permanent dans son œuvre et son recours au racisme était d'abord un rejet du monde contemporain qui comprenait pour lui une condamnation complète du colonialisme. Le fameux essai sur l'inégalité des races humaines aurait dû s'appeler « Essai sur la dégénérescence des races humaines par le métissage ». La situation actuelle, selon Gobineau, annonce la société future produite de la fusion des races. La colonisation ne fait qu'étendre à l'ensemble du globe dans une indescriptible proportion les principes de la confusion ethnique. Elle annonce par là la fin de l'humanité, d'abord sous forme de troupeaux humains engourdis dans leur nullité, et ensuite sa disparition du fait de sa stérilité. Donc ce qu'on prend pour l'inventeur du racisme est d'abord un anticolonial fondamental. De façon générale, au XIXe siècle, la colonisation est considérée comme progressiste, comme l'honte l'œuvre de Karl Marx, et donc l'orientalisme se situe plutôt dans le courant antimoderne qui voit un signe supplémentaire de décadence de l'humanité. Ainsi, si la modernité se définissait comme l'action du processus de civilisation, aussi bien en œuvre dans la société européenne que dans l'expansion ultramarine, cette civilisation était jugée contraignante pour les individus qui ne pouvaient s'en échapper qu'en allant en Orient ou éventuellement en Amérique, terre de violence et de passion. Il ne peut plus y avoir d'aventure en Europe parce que tout y est réglementé et ordonné. C'est bien dans ce sens que la conquête coloniale est d'abord œuvre d'aventuriers ou en tout cas de personnalités qui ne trouveraient pas chez eux les possibilités d'exprimer leur énergie. Ces promoteurs de la civilisation en marche sont sourdement hostiles à cette même civilisation. Toute l'iconographie orientalisante de la conquête de l'Algérie en est la démonstration. Ainsi, l'orientalisme pris dans un sens de mouvement intellectuel et artistique est l'une des expressions de vastes courants antimodernes qui parcourent le XIXe siècle en se faisant le contempteur de la modernité au nom des authenticités perdues. En devenant l'orientalisme, le savoir sur l'Orient change aussi de nature. On passe du bellettrisme dont témoigne encore un Sylvestre de Sacy à l'histoire. Et même à l'histoire la plus essentielle, celle des origines censées de ce fait expliquer la réalité humaine, la réalité contemporaine, dans une vision téléologique dont l'ambition est double. expliquer les raisons de l'hégémonie européenne en ordonnant le passé dans ce sens et fonder une explication des religions en créant une science chargée de les prendre en charge. La première innovation est la conjonction réussie entre l'archéologie débutante et la philologie triomphante. L'exploit fondateur est le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion à partir d'une copie du texte de la pierre de Rosette, ceci en 1822. On passe de l'égyptomanie du XVIIIe siècle au caractère ésotérique à l'égyptologie savante. Dès lors, pratiquement tous les 20 ans, on découvre une civilisation dont on ne connaissait jusque-là que des bribes par l'intermédiaire de la Bible et des auteurs anciens. Ainsi, dans les années 1840, le français Paul-Émile Botta et le britannique Henry Layard, on aura l'occasion de parler longuement de parler celui-là plus tard, découvrent les antiquités assyriennes, tandis que les philologues réussissent de 1842 à 1857 à déchiffrer le cunéiforme. Dès lors, on peut parler d'une science nouvelle, l'assyriologie. Dans le dernier quart du XIXe siècle, ce sera le tour de Sumer, puis ensuite de Mycène et de la Crète minoenne. Le Proche-Orient va ainsi se trouver doté de plusieurs millénaires d'histoire, jusque-là seulement soupçonnées. Les conséquences en sont multiples. En Europe, c'est toute l'histoire sainte qui va se trouver renouvelée, d'autant plus que l'on applique maintenant au texte biblique lui-même les procédures philologiques utilisées pour l'Égypte et la Syrie. Grâce à l'apport conjoint de l'archéologie et de la philologie, on passe d'une lecture religieuse définie par le projet divin à une lecture historique définissant les conditions d'origine du judaïsme, du christianisme et au-delà de l'islam. Au Proche-Orient, même si les habitants ne pouvaient pas ignorer qu'il avait existé un monde avant l'islam et le christianisme, le Coran le mentionnait, et les traces monumentales le témoignaient, cela n'affectait peu les définitions identitaires. Il n'y avait ni transmission ni réminiscence positive du passé antérieur, à l'exception de la poésie dite anté-islamique. C'est d'ailleurs ce qui distinguait l'Orient arabe de l'Orient persan, ou en Perse en revanche, il y avait revendication poétique de renvoyer au souverain d'avant l'islam, le fameux Shahnameh en particulier. Maintenant, la gloire de l'Égypte ancienne et l'adoption des terminologies géographiques européennes entraînent la résurgence des définitions antiques dans la définition des nouvelles identités. L'identité égyptienne nouvelle, dans le cœur de l'âme de la dynastie de Muhammad Ali, reste bien sûr fondamentalement musulmane, mais on lui donne aussi une dimension pharaonique. Par exemple, la commande par le calife Ismaïl de l'opéra de Verdi Haïda pour l'inauguration du canal de Suez, mais comme ça arrivera un peu en retard, Haïda sera créée en 1871 au Caire. Et quand vous regardez les représentations d'Haïda du XIXe siècle, ce sont toutes de l'égyptomanie totale. Comme je l'ai dit, par le même mécanisme, le mot Syrie revient dans la langue arabe sous la forme Souria à côté de Bilad al-Sham. Il en est de même pour Palestine, tandis que l'autonomie libanaise commence à s'inventer une origine phénicienne. Alors que dans un premier temps, l'activité archéologique a alimenté les musées européens, l'État moderne oriental adopte à son tour la forme du musée. C'est d'abord en Égypte qu'est créé le service des antiquités et le musée de Boulak, prédécesseur de l'actuel musée égyptien, en 1858, sous l'impulsion du français Auguste Mariette et par décision de Saïd Pacha. Le musée impérial ottoman, dont la création s'étale de 1881 à 1891, a été l'œuvre d'Osman Hamdi Bey, à qui on doit la loi sur la protection du patrimoine culturel en 1884, qui fait de tous les vestiges archéologiques la propriété de l'État ottoman, loi bien en avance sur son temps par rapport au reste du monde. L'orientalisme, du fait de la conjonction entre l'archéologie et la philologie, permet ainsi de remonter au temps des origines, celui où l'histoire commence. Quand l'objet matériel cesse de parler du fait de l'absence de texte déchiffrable, on peut néanmoins continuer de remonter dans le temps en déduisant de l'état des langues connues des états antérieurs de ces langues. C'est la fameuse quête des origines qui est au centre du XIXe siècle. Depuis longtemps, on soupçonnait l'existence d'un monde asiatique primordial. Depuis le XVIIe siècle, des exégètes identifiaient la fameuse Atlantide de Platon à une société mère dans toutes les autres sociétés, de toutes les autres sociétés qui se seraient situées dans le nord de l'Asie. Dans les années 1770, l'astronome Bailly, le futur maire de Paris sous la Révolution, mais ensuite décapité, enfin guillotiné, a tenté de démontrer que la lumière des sciences et de la philosophie est née dans le nord de l'Asie avant de s'étendre vers l'Inde et la Chaldée. Il raisonne à partir des données de l'astronomie ancienne qui renvoie à cette région du monde. Il utilise systématiquement une méthode comparatiste qui, à partir de ressemblances entre les institutions et les pratiques religieuses des peuples anciens, permet de déduire l'existence d'un peuple originel, ce qui permet de comprendre la parenté de culture entre les régions de la Méditerranée et celles de l'Inde. La même hypothèse d'un peuple originel est reprise par un autre futur guillotiné, le pasteur Rabaud de Saint-Étienne, en 1787, qui part d'une analyse en mythologie comparée pour montrer qu'il a existé un peuple qui a inventé l'agriculture dans une région où poussait le blé sauvage. Je cite, « L'Asie fut autrefois ce que l'Europe est aujourd'hui, le séjour des sciences qui, par un moyen commun, se répandent chez tous les peuples. » Fin de citation. À cette préoccupation du peuple originel s'ajoutait celle de la théorie des invasions. Depuis le XVIe siècle, les théoriciens de la noblesse française faisaient des conquêtes germaniques la légitimation de la domination de la noblesse. Les conquérants étant égaux entre eux et s'étant partagés les dépouilles des Gallo-Romains, il s'en était résulté l'impossibilité de voir émerger un pouvoir absolu en Europe. La conquête a fait naître la noblesse qui a engendré les corps intermédiaires. On a vu ainsi au XVIIIe siècle émerger de ce courant un libéralisme aristocratique dont le plus grand représentant est Montesquieu. C'est la césure des invasions germaniques qui est le moment décisif de l'histoire de l'Europe, celle qui la divise entre anciens et modernes. Pour ces premiers libéraux, c'est en quelque sorte l'inégalité des conditions qui permet de maintenir la liberté. Une société égalitaire serait despotique par nature, puisqu'elle voudrait maintenir tout le monde dans une condition unique. Les savants du XVIIIe siècle avaient alors démontré que les invasions étaient le moteur de l'histoire. Non seulement les Germains, mais aussi tous les autres peuples des steppes de l'Eurasie, comme les Huns, les Mongols, les Turcs et les Tartares, ont envahi les régions policées qui se trouvaient au sud de leur terre d'origine. On remettait ainsi en cause l'hypothèse d'une origine germanique des libertés, puisque ces invasions-là ont abouti au despotisme. La réponse des tenants de la thèse germanique est alors de définir une spécificité germanique qui serait représentée par la féodalité. Durant la Révolution française, le débat s'est approfondi. Les révolutionnaires français ont cherché à fonder la liberté sur l'usage de la raison et non sur le recours à l'histoire. C'est en cela que leur déclaration des droits de l'homme est universelle. Cette position se trouve définie dans la célèbre phrase de Rabaud Saint-Étienne qui a perdu sa particule avant de perdre sa tête. Je cite, « L'ancienneté d'une loi ne prouve autre chose sinon qu'elle est ancienne. On s'appuie sur de l'histoire, mais l'histoire n'est pas notre code. » C'est la fameuse formule, « l'histoire n'est pas notre code. Nous devons nous méfier de la manie de prouver ce qui doit se faire par ce qui s'est fait, car c'est précisément de ce qui s'est fait que nous nous plaignons. » Donc, phrase célèbre, « l'histoire n'est pas notre code. » Face à la liberté fondée sur la raison que l'on accuse d'être une pure abstraction, les contre-révolutionnaires vont affirmer très vite « l'homme n'existe pas, les hommes existent. Les libéraux vont plutôt s'en tenir à la thèse germanique renouvelée. La thèse peut être résumée par la formule « La liberté est issue des forêts de Germanie ». Dès lors, elle se trouve dotée d'un parcours historique. Elle est née dans les forêts de Germanie. Elle se retrouve dans la Common Law, la Magna Carta, l'Habeas Corpus, le Bill of Rights. Les héritiers des libertés germaniques sont les anglo-saxons de Grande-Bretagne et des États-Unis, dont les révolutions sont des restaurations de droits historiques et non pas des innovations. L'universalité des droits de l'homme fondée sur la raison s'inscrit dans une continuité du droit romain à portée universelle qui constitue un élément majeur de la culture juridique des pays de l'Europe continentale. Inversement, la common law, même si elle a été influencée dans un certain nombre de ses éléments par le droit romain, se constitue en continuité historique et particulariste. Les libertés des anglo-saxons qui se sont développées progressivement au cours des temps. C'est l'historicisme qui a servi d'instrument de condamnation de l'abstraction sophistique de la Révolution française chez les penseurs anglais de l'époque. L'existence d'un modèle universaliste dans la tradition latine va en matière coloniale conduire à une approche en termes d'assimilation. Ainsi, dans l'Algérie d'après 1830, les Français expliquent gravement aux Arabes que jadis, eux, les Gaulois, ont été conquis et civilisés par les Romains et qu'aujourd'hui, les Français jouent le rôle des Romains et les Arabes celui des Gaulois. Ils doivent donc s'en féliciter comme les Français l'ont fait avant eux. Je plaisante pas, même Napoléon III le dit aux Arabes. Le modèle particulariste, surtout incarné par les Britanniques, pose plus de difficultés. Il est difficile, mais pas impossible, d'exporter la common law. On va l'instiller dans les droits locaux, en particulier en matière procédurale. Mais on ne peut pas demander aux indigènes de devenir des anglo-saxons. Soit on va vers des expériences de type génocidaire pour les peuples considérés comme primitifs et qui, tout état de cause, occupent l'espace avec de très faibles densités de population, c'est le cas de l'Afrique du Nord, d'Amérique du Nord, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Soit, au contraire, on se montre respectueux des cultures et on exerce sur les indigènes un despotisme bienveillant et éclairé. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on se pense faire. Au-delà, on envisage pour eux un long processus d'acquisition de la modernité qui serait défini à l'intérieur de leur propre culture tout en adoptant les systèmes institutionnels de cette modernité. Les penseurs des Lumières avaient échafaudé un premier parcours historique dont le but premier était d'ignorer l'histoire sainte. Ces descendants spirituels des Grecs anciens savaient que pour ces derniers prétendaient détenir leur savoir de l'Égypte. Il était d'ailleurs communément admis que ces savoirs avaient disparu de l'Europe chrétienne du fait des invasions germaniques et qu'ils avaient été conservés et améliorés par les Arabes avant que ce peuple ne sorte de l'histoire en ayant transmis son legs aux Européens. Le premier schéma faisait donc naître les sciences et les arts dans l'Égypte pharaonique, qui passait ensuite le relais aux Grecs et aux Romains, qui le transmettaient aux Arabes et au-delà aux Européens. L'idée essentielle, c'est qu'il fallait éviter les Juifs et la Bible. On peut ainsi parler d'un parcours méditerranéen qui, dans un pays comme la France, a longtemps servi dans les programmes scolaires, c'est ce que j'avais encore en classe de 6e, à une époque déjà très révolue. Pour les hommes des Lumières, en train de laïciser l'histoire, une notion comme celle de tradition judéo-chrétienne est tout simplement impensable. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les Européens en Inde découvrent le sanskrit et avec lui une idée d'un grand nombre de similitudes entre cette langue de l'Inde ancienne et les langues européennes de la même époque ou à peu près. Ces recherches sont faites en particulier à l'Asiatic Society, l'actuelle Asiatic Society, de Calcutta, fondée par Sir William Jones, le 15 janvier 1784. À partir de cette constatation, les universités allemandes vont, durant la période napoléonienne, développer une discipline nouvelle, la grammaire comparée. Ce n'est qu'après 1815 qu'elle est introduite en France. Volney et Sacy ont été les premiers à le mentionner. Cela aboutit à la création en 1822 de la Société asiatique de Paris, dont Sylvestre de Sacy est évidemment le premier président. Il était toujours le premier quelque part et le président. Les savants allemands ont immédiatement postulé l'existence d'une langue mère et d'un peuple originel dont les langues et les peuples identifiés comme apparentés seraient les descendants. Ils ont à l'esprit le modèle des langues dites latines, dont la dérivation du latin est parfaitement connue, et ils ont utilisé immédiatement le terme indo-germanique, ce qui a fini par vexer leurs homologues français, qui ont vu dans cet usage une volonté de confisquer cet héritage indien. Les Français ont ainsi essayé progressivement d'imposer les termes d'indo-européen et d'arien pour limiter le terme d'usage du terme indo-germanique. Cet orientalisme allemand à vocation philologique est le produit des facultés de théologie protestante où depuis longtemps on a développé une critique linguistique des textes afin d'arriver à la version la plus exacte possible du corpus biblique. Mais dès le début du XIXe siècle, la critique historique remet en cause l'unité de la révélation divine, puisque l'on travaille plus seulement sur la chaîne de transmission des textes, mais sur la composition de leur rédaction, ce qui permet de discerner l'existence de plusieurs rédactions entremêlées que l'on cherchera à reconstituer à partir de l'existence, ce que fait encore ici mon collègue Thomas Romer, dans les études bibliques. En ce début du XIXe siècle, deux faits essentiels vont donner une forme spécifique à cette invention des Indo-Européens. Le premier est le recours à la théorie des invasions qui permet de définir une spécificité indo-européenne. Seules les invasions connues des peuples indo-européens ont produit des systèmes politiques aristocratiques et féodaux. Cela a été le cas des Grecs de l'Antiquité, connus par les poèmes homériques, les Celtes, les Parthes, les Germains, les Vikings. Même le système des castes en Inde aurait été le produit des invasions aryennes, les hautes castes étant blanches, les basses beaucoup plus sombres. Cela permet de comprendre pourquoi les invasions non indo-européennes n'ont pas produit de ce système de liberté féodale, comme on peut le voir avec les Arabes, les Turcs et les Moghols. Le second est la théorie romantique qui part de l'idée qu'une langue est une analyse du réel, qu'elle porte un esprit et donc qu'elle suscite la constitution d'un peuple spécifique. On identifie donc langue et race comme dotées d'éléments spécifiques destinés à traverser l'histoire en prenant des formes différentes, mais en s'inscrivant dans cette continuité. Les peuples et les races constituent donc des personnalités vivantes. Le romantisme rejette ainsi l'idée des Lumières d'une nature humaine commune au-delà des diversités d'aspects des êtres humains. On se trouve ainsi dans le paradoxe que la philologie, science des plus austères, nécessitant une véritable ascèse intellectuelle, se fonde dans ses conclusions sur une intuition romantique qui peut être considérée comme un postulat ou une pétition de principe. Assez tôt s'est posée la question de savoir si cette ethnographie linguistique recoupait une anthropologie physique. Autrement dit, si la race avait une réalité biologique. Le germanisme hérité des siècles précédents poussait à donner aux Indo-Européens un caractère nordique avec des individus blonds avec aux yeux bleus et des crânes allongés dits dolichocéphales. Non, je ne sais pas ici. Vous n'aurez pas dolichocéphales. Mais aucun travail archéologique sérieux n'a pu étayer une telle hypothèse et l'anthropologie physique s'est trouvée être une impasse en matière historique, même si on tente encore aujourd'hui de la sauver par le recours aux analyses génétiques. En fait, aucune spécification biologique ne permet d'identifier un groupe humain dont on ne connaît pas la langue par une documentation écrite. Il faut ajouter les phénomènes de diffusion linguistique à travers la constitution d'une unité politique. Le grec et le latin de l'Antiquité, comme le français et l'anglais du XIXe siècle, ont été parlés par des peuples de provenance diverse, sans parler des langues de contact comme les créoles et le fait que les peuples anciens semblent avoir peu porté d'intérêt à leur langue. Les langues de l'Orient ancien ont aussi laissé place à l'araméen et au grec, celles de l'Occident au latin, ce qui prouve qu'il n'y avait pas d'attachement particulier aux langues dans l'Antiquité. La grande différence entre le parcours méditerranéen et le mitharien, en tant que récit d'histoire de la civilisation, vient du modèle de diffusion. Dans le premier cas, le passage d'un peuple à l'autre s'est fait par transmission culturelle et sur un mode volontaire. Dans l'autre, il y a conquête militaire et imposition par une aristocratie de sa vision du monde au reste de la société. C'est en tout cas la leçon tirée des invasions germaniques et scandinaves. L'ethnographie européenne se trouve ainsi définie par quelques grands ensembles indo-européens, les Celtes, les Latins, les Germains, les Slaves, et quelques peuples non-européens, non indo-européens, les Basques, les Hongrois, les Finlandais. À la fin du XIXe siècle, il y aura la tentation de faire des grands ensembles linguistiques des entités politiques. Panslavisme, pangermanisme en particulier. De même, on tentera d'identifier appartenance religieuse et définition indo-européenne. Ainsi, le catholicisme serait l'expression de l'âme latine, le protestantisme de la germanique, l'orthodoxie de la slave. Du coup, les catholiques allemands ou slaves, comme les polonais, sont soupçonnés de trahison envers la race. Et là, on arrive au sémitisme. La connaissance de la parenté des langues sémitiques entre elles est déjà ancienne. Elle a été l'œuvre du grand savant hollandais Albert Schultens, 1686-1750, le plus grand arabisant de son temps. On lui doit d'avoir amené le statut de l'hébreu de langue sacrée à langue ordinaire et d'avoir utilisé les autres langues comme l'arabe, l'araméen, le syriaque et le gaze, considérées comme des filles de l'hébreu, pour éclaircir le sens des mots obscurs de cette dernière langue. De là, il avait été amené à postuler l'existence d'une langue originelle perdue qui serait à la source de toutes les langues. Ces découvertes, au début du XVIIIe siècle, n'avaient pas provoqué de scandale majeur dans la mesure où elles étaient compatibles avec l'histoire de la tour de Babel et avec les généalogies bibliques. D'ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, les philologues utilisent ces généalogies pour définir ce groupe de langues comme étant des langues sémitiques. Comme l'attention a toujours été tournée sur les textes bibliques, on s'est finalement peu intéressé à la question de la langue et du peuple originel. Au départ, certains philologues ont pu considérer qu'il aurait existé une origine géographique commune entre les premiers sémites et les premiers indo-européens, quelque part en Asie centrale. Mais très rapidement, grâce aux découvertes de l'archéologie qui enregistre là l'histoire des peuples ayant très tôt l'usage de l'écriture, l'opinion commune fait partir les Sémites originels de la péninsule arabique avec des migrations régulières vers les régions du croissant fertile, autre terme inventé par les archéologues. Au-delà, ils se seraient mélangés avec les habitants de l'Afrique du Nord. On envisage même ensuite que des aristocraties sémitiques aurait introduit des organisations étatiques plus civilisées dans les peuples de l'Afrique noire profonde, ce qui conduira au XXe siècle au génocide rwandais. La première question que posent les études sémitiques est la place du corpus biblique dans l'histoire de la civilisation humaine, puisque les Hébreux anciens étaient tenus à l'écart du parcours méditerranéen et étaient par nature exclu du mythe arien en voie de constitution. Dans le cadre de l'émancipation des Juifs d'Europe, s'élabore toute une science du judaïsme, surtout en Allemagne et secondairement en France. Son but est de démontrer que le judaïsme a été la véritable origine du libéralisme. Les prophètes d'Israël ont donné au peuple juif la mission d'adresser au monde un message purement spirituel de nature universelle, ce qui permet d'affirmer que le sens de l'histoire va à une dénationalisation, ce qui est la justification de l'assimilation en cours. Cela va permettre l'affirmation d'un judaïsme libéral qui, dans sa forme la plus radicale, rejette la législation mosaïque, vestige du néolithique, selon les termes des juifs libéraux, pour ne conserver que les lois morales compatibles avec la civilisation moderne. Par bien des aspects, le judaïsme libéral se rapproche du protestantisme libéral de la même époque. Celui qui va incarner les études sémitiques et l'orientalisme académique du XIXe siècle est Ernest Renan, 1823-1892. Ce brillant esprit, d'abord voué à la vie ecclésiastique, a perdu la foi et s'est lancé dans une vie de savant et en même temps d'essayiste. Ce qui est au centre de son œuvre est la fabrique des religions. Pour lui, la philologie est la discipline centrale du savoir humain. L'esprit moderne, dit-il en 1848, c'est-à-dire le rationalisme, la critique, le libéralisme, a été fondé le même jour que la philologie. Les fondateurs de l'esprit moderne sont des philologues. Tout en vantant perpétuellement la supériorité des Indo-Européens, Renan va consacrer sa vie à dresser la carte de l'esprit sémitique, d'abord d'un point de vue philologique, puis ensuite historique, faisant une histoire des origines du christianisme, puis celle du peuple d'Israël, avec quelques études comparatives avec l'islam. Il définit les races comme des cadres intellectuels permanents. Les sémites sont l'expression du principe d'unité qui se concrétise dans l'affirmation du monothéisme, tandis que les Indo-Européens représentent celui de la diversité, d'abord avec la mythologie, ensuite avec les sciences. Si les races ont pu avoir une réalité biologique à l'origine, en fait, une petite infusion de sang suffit pour changer les cadres. Ainsi, les Turcs de son temps sont plus sémites que les sémites du fait qu'ils ont adopté l'islam. En fait, la race est un idéal type, un modèle pur dont on doit trouver des éléments chez les peuples réels. Si on s'éloigne de l'idéal type, on doit supposer l'existence de mélanges, comme chez les Phéniciens et les Mésopotamiens de l'Antiquité. Le processus de civilisation avec le mélange de peuples qu'il implique tend à détruire les influences originelles. Il en est de même de la nation qui fait une nouvelle unité à partir d'éléments disparates. En 1860-1861, il fait sa célèbre mission archéologique en Phénicie, dans le cadre de l'expédition militaire française, ce qui fonde les études phéniciennes. Il est élu professeur au Collège de France le 2 décembre 1861. Sa leçon inaugurale du 22 février 1862 est un des épisodes les plus célèbres de l'histoire du Collège. De la part des peuples sémitiques dans l'histoire de la civilisation, c'est le titre de la conférence, est une véritable provocation. Les contemporains ont retenu la formule « Jésus, un homme incomparable, si grand que, bien qu'ici tout doive être jugé du point de vue de la science positive, je ne voudrais pas contredire ce qui frappait du caractère exceptionnel de son œuvre, l'appel Dieu. » Donc c'est Jésus, cet homme incomparable, est considéré comme une négation de la divinité du Christ. Aujourd'hui, on prendrait le texte de Renan comme l'attaque la plus violente jamais faite contre l'islam. Je cite. « Le génie européen se développe avec une grandeur incomparable. » L'islamisme, dans le XIXe siècle, l'islamisme signifie en français « islam » au sens d'aujourd'hui. « L'islamisme, au contraire, se décompose lentement. De nos jours, il s'écroule avec fracas. À l'heure qu'il est, la condition essentielle pour que la civilisation européenne se répande, c'est la destruction de la chose sémitique par excellence, la destruction du pouvoir théocratique de l'islamisme, par conséquent, la destruction de l'islamisme. Car l'islamisme ne peut exister que comme religion officielle. Qu'on le réduira à l'état de religion libre et individuelle, il périra. L'islamisme n'est pas seulement une religion d'État, c'est une religion excluant l'État. C'est une organisation dont les États pontificaux seuls en Europe offraient le type. Là est la guerre éternelle, la guerre qui ne cessera que quand le dernier fils d'Ismaël sera mort de misère, ou aura été relégué par la terreur au fond du désert. L'islam est la plus complète de la négation de l'Europe. L'islam est le fanatisme comme l'Espagne de Philippe II et l'Italie de Pie V l'ont à peine connu. L'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile. C'est l'épouvantable simplicité de la pensée sémitique rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle pour le mettre en face d'une éternelle tautologie. Dieu est Dieu. L'avenir, messieurs, est donc à l'Europe et à l'Europe seule. L'Europe conquérera le monde et répandra sa religion, qui est le droit, la liberté, le respect des hommes, cette croyance qu'il y a quelque chose de divin au sein de l'humanité. C'est pour ça que Renan ne sera jamais entré au Panthéon, parce qu'au XIXe siècle, au début du XXe siècle, à chaque fois qu'on a proposé sa panthéonisation, l'Église catholique s'y est opposée. Et ensuite, aujourd'hui, on n'oserait plus à cause de ce texte. Cette leçon de vertu a provoqué un tel scandale que Renan a vu son enseignement suspendu et il sera plus tard démis de sa chaire. Mais dans l'intervalle, il publie en 1863 sa vie de Jésus, un des plus grands succès de librairie du XIXe siècle. Cette interprétation rationaliste fait de lui le symbole de la civilisation moderne que l'Église condamne. Le pape Pie IX ira jusqu'à le traiter de blasphémateur européen. Renan sera rétabli dans sa chaire par le gouvernement de la Défense nationale en 1870 et deviendra sous la République des Républicains l'une des plus grandes gloires nationales, immédiatement après celle de Victor Hugo. Il est d'ailleurs plus un libéral qu'un républicain. Ce qui explique le succès de Renan, démesuré pour un orientaliste, est d'abord évidemment la beauté de son style qui a fait de lui un grand écrivain. Son activité de savant et d'essayiste correspond à une très forte demande sociale qui renvoie d'abord à la place de la religion dans la société moderne. Au-delà, le mitharien à qui il rend périodiquement hommage sans vraiment y contribuer donne une explication historique renvoyant à l'âge du fer la supériorité européenne sur le reste du monde. Il n'y a pas de caractère vraiment dépréciatif dans le sémitisme qu'invente Renan, puisqu'il est d'abord l'explication des origines du monothéisme et donc de l'universel. Le monde moderne, dans sa fusion chrétienne, est le produit de la diversité indo-européenne et de l'unité sémitique. Mais l'immense succès de Renan va permettre de populariser le terme de sémite, qui, dans un usage journalistique, va devenir synonyme de juif ou d'israélite. Le sémitisme deviendra ainsi l'équivalent de judaïsme, conduisant à l'apparition du terme antisémitisme en allemand en 1879, avec une connotation de racisme biologique. La langue française suivra avec une dizaine d'années de retard. On peut reprocher à Renan une approche essentialiste de l'Orient, ce qui n'est pas faux, si on considère qu'il procède par idéal type, mais l'on doit prendre en fin de compte que son histoire de l'Orient ancien est de nature finaliste. Le judaïsme doit aboutir à l'universalité dont l'expression la plus forte est celle du christianisme, d'où l'élément paradoxal que constituent périodiquement les oppositions au judaïsme, c'est-à-dire que ce sont les éléments que l'on pourrait définir soit comme libéraux, soit comme nationaux, Saul contre Samuel, les rois contre les prophètes, les samaritains contre les juifs, les hellénistes contre les Maccabées et même Hérode le Grand. Le second paradoxe est que l'islamisme au sens d'islam est la version la plus pure du sémitisme, la plus intransigeante dans son insistance sur les principes d'unicité. Là encore, on trouve l'explication raciale. Le sunnisme est l'expression du sémitisme, même chez les peuples non sémitiques d'origine comme les Turcs. Le chiisme serait la version persane, indo-européenne de l'islam. On doit donc admettre que la vision renanienne de l'Orient sémitique est moins essentialiste que cyclique. Constamment, il a existé des forces contraires au principe du sémitisme qui peuvent être soit endogènes comme en Phénicie ou en Mésopotamie, soit exogène comme à l'époque de l'hellénisation et de la romanisation de l'Orient. Il dresse ainsi une comparaison entre Hérode le Grand et Mehmet Ali. Je cite. Il voulait un judaïsme libéral, tolérant, comme nous rêvons un catholicisme doué des mêmes qualités, qui ne serait plus un catholicisme. La comparaison se poursuit. Hérode nous apparaît ainsi comme une sorte de khédive éclairé, faisant jouer l'opéra au Caire, patronnant des arts que ses sujets ne comprennent pas, que la religion officielle condamne, faisant taire les murmures des orthodoxes parce qu'il s'est appuyé sur l'Europe et qu'il est presque seul détenteur de la richesse du pays. Il oppose ainsi ce caractère, Hérode, à celui des zélotes ou des sicaires, à Saint-Saint-Pieux qui s'imposait pour tâche de tuer quiconque manquait devant eux à l'esprit de la loi. Cette analyse de Renan préfigure celle des historiens du XXe siècle, opposant les hellénistes et les zélotes, c'est-à-dire l'opposition entre les acculturés dans un processus de mondialisation et les fondamentalistes qui rejettent par la violence et le meurtre cette assimilation au courant général de son temps. Dans ce cadre-là, des mouvements comme Daesh, c'est un mouvement de sicaire ou de zélote, au sens que donne Renan à ce terme. Pour Renan, le christianisme est l'aboutissement historique du sémitisme, mais à condition de l'abolir, le faisant pleinement accéder à l'universel. D'où, je vais terminer là, parce que je suis... ce passage de la vie de Jésus, la population de Galilée était formulée comme le nom même du pays l'indiquait. Cette province comptait parmi ses habitants au temps de Jésus beaucoup de non-juifs, phéniciens, syriens, arabes et même grecs. Les conversions au judaïsme n'étaient point rares dans ces sortes de pays mixtes. Il est donc impossible de soulever ici aucune question de race et de rechercher quel sang coulait dans les veines de celui qui a le plus contribué à effacer dans l'humanité les distinctions de sang. Il a beau ensuite essayer d'expliquer que Jésus a suivi une éducation totalement juive et que sa doctrine appartient pleinement au judaïsme de son temps. Ce passage servira au courant antisémite de la fin du XIXe siècle pour expliquer que Jésus n'était pas juif. Au-delà, dans le néopaganisme en formation dans cette période, on commence à expliquer que le judéo-christianisme est étranger à l'âme arienne et qu'il faut libérer les Ariens contemporains de cette domination orientale et étrangère. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc, vous voyez que dans cette extraordinaire machine qui est le 19e siècle, on mélange à la fois la rigueur la plus absolue, qui est la philologie, et les équilibrations les plus dingues sur les caractères raciaux et les origines de l'humanité. Et vous comprenez très bien combien ces termes qui se mettent en place, en particulier dans la seconde moitié du XIXe siècle, vont peser extrêmement lourd sur le siècle suivant. Je vous remercie.